Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Nous avons la ferme assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus le Christ. Bienvenue à l'Oratoire du Louvre pour ce culte qui rassemble aujourd'hui les enfants de l'éducation biblique, leurs parents, leurs moniteurs et monitrices. Bienvenue à celles et ceux qui peut-être franchissent le seuil de ce temple pour la première fois. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Que nous soyons proches ou lointains, nous sommes dans l'incertitude du lendemain. Nous sommes dans l'inquiétude provoquée non seulement par l'épidémie de Covid-19 toujours active et d'autres soucis quotidiens récurrents, mais dominée par l'actualité de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, ce culte est ce moment privilégié où nous sommes unis par le même esprit et c'est lui qui nous guide sur les chemins de la fraternité malgré l'humanité déchirée et nous procure la paix intérieure dont nous avons besoin pour rester à la fois confiants, lucides et toujours dans le discernement. Le culte qui nous réunit est accompagné ce matin par David Cassan à l'orgue et par Alexandre Korovitch et le chœur de l'oratoire. Puissions-nous vivre ce moment, l'esprit au repos et le cœur apaisé. Prions ensemble. Seigneur, tu es le port tranquille de tous ceux que les flots de la vie agitent. Tu donnes l'espérance à ceux qui désespèrent. Tu es le salut des malades, le soutien des éprouvés, le guide des aveugles. Tu es l'appui des épuisés. Que j'obtienne le repos avec ceux qui mettent leur confiance en toi. Amen. Nous ouvrons ce culte en prenant maintenant le premier répond que vous trouverez dans les feuillets liturgiques au début du psautier français. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique et je vous invite à vous lever. Louons Dieu avec les mots du psalmiste, et je prendrai le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je vous invite à poursuivre notre louange En prenant maintenant dans le recueil le psautier français, le numéro 77B, 77B, qui s'intitule « L'âme de douleur atteinte ». De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire avec les paroles du prophète Ésaïe. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Prions ensemble. Depuis les profondeurs, je t'invoque, Éternel. Entends-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Éternel, qui pourrait tenir debout ? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, j'espère vraiment, j'attends sa parole. Je compte sur l'Éternel plus que les gardes sur le matin, oui, plus que les gardes sur le matin. Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Pour recevoir la grâce que Dieu renouvelle chaque jour, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi et je prendrai donc un texte écrit par le pasteur Charles Wagner. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance, et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Aujourd'hui, nous lirons un extrait de Livre de l'Exode dans le Premier Testament. Au chapitre 17, les versets 8 à 12. À Réphidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. » « Sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Seigneur, ta parole est la vérité. Éclaire-nous par la vérité. Amen. Alors, nous allons normalement chanter dans le psautier français. Je vous propose de prendre maintenant le chant du psaume 91, Mais avant que nous chantions, à moins que les enfants chantent avec nous, je ne sais pas. Eh bien, ça ne fait rien. En tout cas, qui demeure auprès du Seigneur, strophes 1, 2 et 4, dans le psautier français, je vous invite à chanter le psaume 91. Prenez place. Et notre pensée accompagne particulièrement donc les jeunes de l'éducation biblique qui sont partis à l'instant avec Béatrice pour avoir leur temps de culte à eux dans la maison presbytérale. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu de notre vie, comment entendre ta parole alors que nous sommes bousculés par l'actualité internationale et qu'en nous monte l'inquiétude sourde devant les images de nos écrans? Comment vivre ce qui en ta parole résonne en harmonie avec nos cœurs? Comment accueillir ce qui en elle est en dissonance avec nos habitudes? Nous voulons en tout cas discerner ta présence ce matin, reconnaître nos limites, nos manquements, et d'entrer te dire notre confiance, car tu es celui qui nous éveille, celui qui nous relève, celui qui nous met en route, celui qui nous accompagne sur le chemin, aussi difficile soit-il. C'est toi que nous cherchons, éternel Dieu de la vie, en écoutant ta parole. Qu'elle soit féconde et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait germer et grandir en nous le désir de vivre à ta suite. Amen. amis, frères et sœurs, est-ce bien un texte de ce style que nous avons envie d'entendre ce matin ? Notre cœur, victime du contexte international actuel, n'est-il pas assez lourd pour écouter un récit de bataille ? Certains sont peut-être en train de se dire, mais encore un texte qui nous parle de guerre et qui laisse à penser que Dieu est le complice de cette guerre entre Israël et Amalek. Alors, que faut-il comprendre de ces quelques versets ? Que pouvons-nous retenir pour la situation qui est la nôtre aujourd'hui ? Après avoir supporté, dans le chapitre précédent, au chapitre 16, et au tout début du chapitre 17 de ce même livre, la faim et la soif, c'est maintenant un danger militaire qui guette le peuple d'Israël. Depuis la sortie d'Égypte, Moïse avait dû supporter les mécontentements de son peuple, souffrant les affres de la traversée du désert, et qui commençait à déplorer sa condition d'esclave en Égypte. Au chapitre 16, le peuple se plaint de la faim et se met à regretter les marmites de viande qu'il avait connues en Égypte. En regard de sa situation actuelle, le séjour en Égypte lui apparaît maintenant comme un moindre mal. Au début du chapitre 17, dans les tout premiers versets, le peuple souffre de la soif, il cherche querelle à Moïse en le poussant dans ses retranchements, en lui posant la question de savoir pourquoi il les a fait sortir d'Égypte si c'est maintenant pour mourir de soif dans le désert. Dans les deux situations, Dieu intervient auprès de Moïse pour répondre aux plaintes successives du peuple, en lui donnant d'abord à manger la manne et l'écaille, puis en donnant l'ordre à Moïse de se rendre vers un rocher avec 70 anciens d'Israël qui seront les seuls témoins de ce miracle, à savoir le bâton dont Moïse se sert pour frapper le rocher, faisant jaillir l'eau de la pierre, permettant ainsi au peuple d'étancher sa soif avec une eau potable. Et c'est à la suite de ce miracle qu'Amalek vient combattre Israël en s'opposant à son passage dans le désert. S'ensuit un conflit qui ressemble tellement aux différents conflits de notre monde actuel qu'il est difficile de le commenter, et il est tout autant difficile d'en tirer une leçon immédiate pour nous aujourd'hui, car finalement la situation n'est pas la même. Mais nous pouvons remarquer que dans ce passage que nous avons lu à l'instant, il n'est pas question directement de Dieu. Dans ce passage, Moïse ne sollicite pas l'aide de Dieu, le nom de Dieu n'est presque pas prononcé, sauf pour le bâton, et l'action qui se déroule semble se passer sans lui. Dieu ne parle pas à Moïse, il ne lui donne aucune directive en ce qui concerne cette bataille. Et voilà que les Amalécites livrent bataille à Israël. On ne sait pas grand-chose de ces Amalécites dont l'existence historique n'est pas certaine. Et dans son commentaire de ce passage de l'Exode, Thomas Römer précise qu'ils apparaissent dans la Bible comme une association de tribus sémitiques et nomades séjournant dans le désert de Judée, et certainement aussi dans la presqu'île en Sinaï. Mais la Bible a fait d'eux des ennemis héréditaires des Israélites, et donc ce n'est pas étonnant que la première guerre d'Israël soit une confrontation avec les Amalécites. Continuellement, Amalek opposera ses armées aux combattants israélites, et il faudra attendre le roi David pour qu'il soit vaincu définitivement. Dans le récit biblique, Amalek est plutôt la figure du mal récurrent qui s'oppose à Israël. Trois personnages sont mentionnés dans ce récit. Tout d'abord, Aaron, le frère de Moïse, le fidèle parmi les fidèles, inséparable de Moïse dans sa tâche de libérateur du peuple. Il est aux côtés de son frère devant Pharaon. Il participe aux prodiges qui marquent les phénomènes plus connus sous le terme des 10 plaies d'Égypte. Il est encore aux côtés de son frère quand celui-ci reçoit les doléances du peuple affamé pour qui la manne tombera du ciel. Et on le retrouve aux côtés de Moïse pour la première grande bataille d'Israël à Réphidim. Le deuxième personnage que l'on découvre, c'est celui de Our. On sait peu de choses sur lui. Son nom peut être mis en relation avec le dieu égyptien Horus. Plus tard, il apparaîtra comme le représentant de Moïse, ensemble avec Aaron. Il sera l'ancêtre judéen de Bet-Salel, un artiste qui jouera un rôle important lors de la construction du sanctuaire. Entourant Moïse, Aaron représente donc ici la tribu de Lévi et Our, celle de Juda. Le troisième personnage, mentionné d'ailleurs en premier et pour la première fois, c'est Josué, le futur successeur de Moïse. Moïse lui confie la direction de la bataille et Moïse dit à Josué qu'il se tiendra sur le sommet de la colline. Moïse monte effectivement sur la colline, assisté d'Aaron et de Our. Ainsi, le peuple peut le voir sur ce lieu élevé, les bras tendus vers le ciel, dans la position traditionnelle de la prière. Et Aaron et Our vont soutenir Moïse, d'abord en le calant contre un rocher pour qu'il reste assis et droit, puis en soutenant ses bras pour qu'il les garde levés, afin d'assurer une issue de la bataille favorable aux Israélites. C'est un tableau impressionnant et cette attitude adoptée par Moïse sera comprise ultérieurement comme étant un geste de prière, mais aussi symboliquement. Cette attitude évoquera le temple qui sera construit bien plus tard sur la montagne de Sion, dans lequel seront déposées les tables de la loi et dans lequel les descendants Aaron se relaieront nuit et jour pour y assurer la prière. Frères et sœurs, amis, nous sommes invités, me semble-t-il, à prendre ce texte de façon symbolique. Parce qu'à travers ce récit, nous pouvons y reconnaître le récit de nos propres vies, souvent traversées par des épreuves, provoquées par des éléments hostiles qui nous tombent dessus à l'improviste, qui modifient le cours de nos vies, comme s'il y avait en quelque sorte un Amalek qui barre la route de notre vie et nous éloigne du bonheur. Ce que je retiens de ce texte, c'est que la victoire d'Israël se joue grâce à la solidarité active d'Aaron et de Our soutenant Moïse, en l'aidant à garder ses bras levés. Une manière de dire, peut-être, que la victoire sur n'importe quelle forme de mal ne peut se remporter que par la solidarité des uns et des autres à éradiquer ce mal. Et cela peut prendre un temps infini. Et dans ce texte, on pourrait dire que Dieu reste silencieux pour mieux laisser la place aux hommes. Aaron et Our savent quoi faire pour soutenir Moïse dans sa fatigue. Ils savent que s'ils aident Moïse à garder les bras levés, alors ce sera perçu comme un signe positif d'encouragement pour ceux qui combattent dans la plaine avec Josué. C'est ensemble qu'ils soutiennent les combattants pour qu'ils ne fléchissent pas. C'est un signe de résistance qui a besoin des autres. C'est un soutien qui se passe de mots. Au fond, ici, le geste suffit pour symboliser la relation profonde qui existe entre Moïse et Aaron et Our et la foi qu'ils ont dans le Dieu d'Israël. Ici, c'est le geste qui est prière. Et au passage, je voudrais rappeler que la Bible est un livre orienté. C'est bien l'histoire humaine qui est racontée, mais avec le présupposé de la foi. En un Dieu qui se fait connaître à un peuple par tous les moyens. Et j'emprunte ici les mots de Raphaël Picon dans ce livre compilation intitulé à juste titre « Un Dieu insoumis ». Dieu est un mot disponible pour désigner depuis la nuit des temps ce qui fait marcher l'univers ou ce qui lui assure son équilibre, ceux qui donnent la vie ou ceux qui font notre vérité profonde, ceux qui nous sauvent de la mort ou ceux qui nous préoccupent de manière ultime. Mais négativement, Dieu est aussi ce mensonge qui aliène, cette tutelle qui empêche l'émancipation, ce fantasme de toute puissance. Dieu est un concept ambigu qui englobe une multitude d'éléments, mais Dieu n'est pas réductible à ce que les religions en font. Parmi les prophètes qui jalonnent la vie du peuple d'Israël, Jésus de Nazareth permet par ses actes et ses paroles de penser Dieu autrement. Non plus comme un concept, un principe ou un surhomme tout-puissant, la prédication de Jésus est celle d'un appel à la vie contre toutes les puissances de mort. Elle est celle d'un combat contre ce qui déshumanise le monde et l'existence. Hier, pendant la pandémie de Covid-19, qui n'est pas encore finie, c'est la solidarité des uns et des autres qui a permis à de nombreuses personnes de survivre et de traverser tant bien que mal la période inédite de confinement. On sait aussi que celles et ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette solidarité ou de ce soutien moral ou physique n'ont pas forcément survécu. Aujourd'hui, le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis 18 jours, venant ainsi bouleverser les pions de l'échiquier mondial, nous fait toucher du doigt notre impuissance à éradiquer la violence extrême, mais fait découvrir aussi en nous, comme autour de nous, que nous soyons croyants ou non-croyants, des ressorts inattendus permettant par une inventivité et une créativité souvent extraordinaires des gestes de solidarité souvent inédits pour aider, soigner, protéger, et ainsi de résister pacifiquement et avec détermination contre tout ce qui défigure l'être humain. Et ces gestes de solidarité et de résistance peuvent faire capituler les dictatures les plus absurdes. Nous sommes témoins de la fatigue des Ukrainiens. Nous pouvons les aider et à garder symboliquement leurs bras levés, tout en restant solidaires de la communauté internationale qui ne veut pas de guerre. Nous pouvons aider les Ukrainiens, et pas seulement eux, mais tous ceux qui souffrent de n'importe quelle autre dictature, par tous les moyens, sans pour autant passer la ligne rouge et violer à notre tour le droit international voté pour tous les peuples. Sinon, on se discréditerait nous-mêmes. Amis, frères et sœurs, il se trouve que nous sommes sur une ligne de crête. Gardons tout de même à l'esprit que ce n'est pas Dieu qui agit, mais c'est nous. Seule la foi nous fait dire que Dieu participe à notre action et nous inspire pour que nous discernions les bonnes solutions. Ce Dieu qu'incarne Jésus nous appelle à devenir humains sans cesse, à notre tour, devenir à notre tour à travers nos solidarités et aussi nos passions pour la liberté, un prochain, un témoin pour les autres. Croyants ou non, chercheurs de Dieu ou non, c'est cela qui nous est demandé. Être un témoin d'humanité pour notre monde. Et la veillée de prière de mercredi prochain à 20h ici même rassemblera des personnes d'abord de bonne volonté et soucieuses d'aider et d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Et cette liberté n'a pas de prix. Amen. Chers amis, vous aurez donc reconnu le Kyrie Eleison du Requiem de Mozart. Et au passage, nous remercions fortement le chœur de l'oratoire de nous avoir proposé ce morceau. Et je vais continuer ce culte en vous invitant maintenant à prendre dans le recueil Louanges et prières, le numéro 309. Nous chanterons de ce cantique les strophes 1, 2, 3 et 4 et je vous invite à vous lever. Prenez place et je cède la parole maintenant à Aurore Saglio-Thébault, notre présidente du conseil presbytéral.
Merci Agnès. Tu l'as dit, merci au chœur, également à David Cassan qui accompagne le chœur aujourd'hui et à toi, Meux, qui fidèle nous filme le culte en direct chaque semaine. Mercredi sera aussi en direct la veillée œcuménique de prière pour l'Ukraine. Nous l'organisons, nous sommes en train de l'organiser avec l'église de Saint-Eustache. L'église gréco-catholique ukrainienne a également répondu à l'appel et sera là mercredi avec nous. Nous continuons à mobiliser, le président du CASP sera là, les personnes en charge également de l'hébergement citoyen qu'ils ont lancé l'appel seront là, la Fédération du protestantisme, la Fédération de l'entraide, Saint-Eustache aussi mobilise les associations catholiques qui sont en train de se mobiliser pour les réfugiés. Soyez donc nombreux, s'il vous plaît, mercredi à 20h, pour cette veillée de prière que nous organisons en solidarité avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. La révolution orange de 2004 est loin. Celle de 2014 aussi, nous ne sommes plus en temps de révolution, mais en temps de guerre. Voilà, donc venez nombreux mercredi à 20h. Également parce que la semaine dernière, la journée internationale de la femme était consacrée particulièrement aux violences faites aux femmes, notamment pendant les guerres. Je voulais vous signaler que mardi soir, nous avons une séance théophile avec Béatrice Cléromazir et Jean-Pierre Clairaut sur le thème du deuxième sexe. en référence à l'ouvrage de Simone de Beauvoir, mais le sujet n'est pas Simone de Beauvoir, et le sujet de la femme dans la philosophie et également dans la Bible, donc ce mardi à 20h. Le week-end prochain, samedi, le pasteur Gilles Castelnau continue ses séances d'hébreu biblique à 10h du matin. Donc vraiment, soyez nombreux sur l'hébreu biblique. C'est un bon moyen de connaître la Bible et mieux la lire et la comprendre. C'est vraiment ouvert à tous, y compris aux débutants. Gilles, tu confirmes ? Merci. Dimanche, nous aurons la joie de faire un échange de chairs. C'est toi, Agnès, qui va à Montparnasse ?
Oui.
Voilà. Marie-Pierre Courneau, nous aurons la joie d'avoir Marie-Pierre Courneau qui vient prêcher ici. Marie-Pierre fait partie du courant libéral. Nous sommes ravis de lui céder la chaire et d'avoir Agnès prêchant là-bas. Vous aurez aussi un repas partagé. Nous allons pouvoir reprendre les repas partagés dimanche prochain avant une séance de paroles d'amour consacrée au désir d'enfant. Alors, voyez pas le désir d'enfant en disant « j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas de désir d'enfant, donc je ne viendrai pas à parole d'amour, ça ne me concerne pas ». Voyez aussi le désir d'enfant en ce moment comme un désir d'avenir. Donc vraiment, soyez nombreux à venir à la séance de parole d'amour, déjeuner avant ensemble de ce que vous aurez apporté, c'est le principe du déjeuner partagé, et plus nous serons nombreux à avoir ce désir d'enfant et ce désir d'avenir, plus notre monde sera meilleur aujourd'hui et maintenant. Également, l'Armée du Salut, dimanche prochain, fait un concert ici à 16h. Soyez également nombreux pour soutenir les actions de l'Armée du Salut, pas uniquement pour l'Ukraine. Et ça sera à 16h, dimanche prochain, ici. Je vous remercie et vous souhaite un excellent dimanche.
Nous allons maintenant recueillir votre offrande. Que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, et l'offrande recueillie aujourd'hui est destinée à la vie de l'Église. C'est de cette manière que notre Église rend témoignage en soutenant celles et ceux qui en ont besoin. unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, toi qui es Père de tous les humains, quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, toi qui es source inépuisable de bonté, d'amitié, de générosité, toi qui, en Jésus le Christ, relève et guérit, restaure et ressuscite. Nous te présentons dans notre prière notre monde déchiré, où retentissent des bruits de guerre, où s'élèvent des cris de haine et de mensonge. Nous portons dans la prière celles et ceux qui se terrent dans des abris, celles et ceux qui fuient et qui perdent tout, celles et ceux qui pleurent et qui ont peur, celles et ceux qui sont blessés, celles et ceux qui sont dans le deuil. Notre prière rassemble aujourd'hui des Ukrainiens et des Russes, sans pour autant oublier les autres pays qui souffrent de guerre, d'attentats ou d'autres combats. Nous te prions pour celles et ceux qui résistent aux discours trompeurs et aux déchaînements de violence. Pour celles et ceux qui tiennent à la paix, à la justice, à la liberté et à la vérité. Nous te prions pour celles et ceux qui portent secours et qui font œuvre de compassion. Nous mettons notre espérance en toi, en cette inspiration que tu répands généreusement sur les humbles comme sur les gouvernants. Qu'elle passe, qu'elle s'infiltre, qu'elle oriente les décisions avec plus de sagesse et plus d'humanité. Nous te prions en nous remettant nous-mêmes en ton amour, pour rester présents et solidaires dans ce monde, pour ne pas nous résigner, parce que nous voulons résister au pouvoir de la force, mais aussi ne pas faiblir devant ce qu'il y a à faire et devant ce qui surviendra. Nous te prions parce que nous ne voulons pas nous laisser dominer par un esprit de peur ou d'indifférence, mais parce que nous voulons être animés de ton esprit de fraternité et de partage. Souffle en nous ce dont nous avons besoin de courage pour rester des amis, des frères, des sœurs, des vivants, et ainsi être pour tous des témoins de ton amour sans condition. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant, amis, frères et sœurs, l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur pour chacun et chacune de nous, avec les mots de l'apôtre Paul dans cette lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ. Amen. Permettez-moi encore de vous souhaiter un beau dimanche.